Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Elite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Elite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut vous aider à transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, c'est TikTok qui vole la vedette. Autant dans les nouvelles que dans l'entretien avec trois directeurs marketing de grandes entreprises, on discute de comment aborder cette plateforme en 2022. Bonne écoute! Chez Pure Commerce, on était récemment au webinaire d'Insider Intelligence intitulé « TikTok Commerce Strategies for Success in 2022 ». Pendant une petite heure, on a pu écouter une analyste en data sur le sujet et le premier point qui m'a particulièrement marqué, c'était le hashtag « TikTok made me buy it ». Littéralement, ce sont des gens qui publient du contenu à propos d'un produit qu'ils ont acheté grâce à TikTok récemment. Écoutez la suite, c'est assez impressionnant. On estime que TikTok aura 765 millions d'utilisateurs en 2022. Et sur le hashtag TikTok Made Me Buy It, on comptabilise pas moins de 10 milliards de vues dans le monde. Donc ça veut dire qu'en moyenne, les utilisateurs du monde entier ont vu ce hashtag passer au moins 13 fois, ce qui est immense. D'ailleurs, si vous voulez prendre des cours de vidéo UGC pour présenter vos produits, je vous encourage fortement à aller regarder les vidéos qui sortent sur ce hashtag. On commence avec une première étude publiée en février 2022. Quel rapport les utilisateurs ont avec le e-commerce sur la plateforme? Sur plus de 3600 personnes âgées de plus de 13 ans, 71% des répondants indiquent qu'ils achètent à partir d'un contenu qu'ils ont vu sur TikTok. Et 58% l'utilisent aussi pour trouver de l'inspiration pour de futurs achats. Une autre étude nous indique que l'emplacement qui génère le plus de découvertes et donc d'achats est l'emplacement « For You » dans votre feed. Cela peut varier selon le type de produit qu'on propose. Par exemple, les produits de luxe sont souvent découverts à travers des vidéos d'influenceurs populaires. Pour l'industrie automobile, ce sont les publicités et les vidéos tendances. Par contre, ce n'est pas pour autant que TikTok déclenche l'achat. En fait, c'est un excellent moyen d'inspirer parce que la majeure partie de ces achats se fait en dehors de la plateforme. Pour comprendre ce principe, Insider se base sur une étude sortie en septembre 2021 dans laquelle on peut voir que 25% des répondants ont trouvé de l'inspiration sur TikTok pour leur achat, mais seulement 15% d'entre eux ont acheté un produit par la suite. Contrairement à Facebook, par exemple, où 67% des répondants ont indiqué avoir trouvé de l'inspiration et 74% ont passé une transaction suite à l'inspiration trouvée. Ceci peut vouloir dire plusieurs choses. De un, Facebook a beaucoup plus de fonctionnalités pour déclencher l'achat directement. TikTok est encore très loin derrière techniquement parlant. Cependant, il faut prendre en compte que les répondants étaient adultes et on sait que les utilisateurs de TikTok sont beaucoup plus jeunes. Cette donnée peut donc être questionnée. Numéro 2, on connaît la puissance des publicités sur Facebook. Il est probable que cette différence lui soit attribuée si vous voyez un contenu organique versus une publicité. L'un vous force à faire des recherches par vous-même, quand l'autre vous met un lien direct pour passer à l'achat et donc l'attribution se fait sur la plateforme. C'est d'ailleurs un autre point de la rencontre. Les prévisions jusqu'en 2025 donnent à Facebook et Instagram la plus grosse partie des dépenses liées au commerce, c'est-à-dire les gens qui achètent directement à la suite d'une publicité. C'est pour cette raison, je pense qu'il y a une course folle pour les réseaux sociaux à proposer l'achat directement sur la plateforme. Plus vous rendez ça facile, plus vous captez du volume de transactions. Mais ce qui est certain, c'est que la population des shoppers, c'est-à-dire les gens qui disent acheter fréquemment sur TikTok, est la plus large de tous les autres réseaux sociaux. C'est pourquoi la stratégie e-commerce évoquée pendant le webinaire tourne principalement autour d'une approche de contenu. Insider Intelligence parle de la règle des 3 C, à savoir le C numéro 1, communauté. Trouvez votre niche pour créer facilement cette communauté. Ça passe aussi par les hashtags que vous utilisez et que vous lancez. Le C numéro 2, le C de créateur. N'hésitez pas à collaborer car c'est pour eux que les utilisateurs se déplacent sur la plateforme. Il faut savoir que sur 1200 personnes interrogées, quasiment 50% des moins de 18, donc les 18 à 24 et les 25 à 34 ans, attribuent plus de 10% du contenu qu'ils regardent à des influenceurs et créateurs. Ce qu'Insider qualifie d'important dans la consommation de contenu. Et le troisième C, c'est le C de connexion et c'est peut-être le point le plus macro de la présentation. Parce que sur TikTok, vous pouvez réagir à un contenu au-delà d'un simple partage ou d'un commentaire. Vous pouvez reprendre le contenu pour en faire un nouveau. C'est pourquoi les facteurs d'authenticité et de transparence reviennent très souvent quand on demande ce qui est important chez les marques depuis la plateforme. Ça passe par sortir un peu du sérieux ambiant de votre marque si vous êtes à l'habitude très fermé et par laisser de la liberté aux créateurs quand ils font des commentaires sur votre produit ou service. Donc, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire sur la plateforme. Le 8 avril 2022, j'ai eu l'immense honneur d'animer lors de la journée e-commerce des entretiens avec des acteurs influents du commerce en ligne au Québec. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous révéler une première discussion que j'ai eue avec trois conférenciers de l'événement qui œuvrent tous dans le marketing au jour le jour. Le panel était composé de Pierrick Tourigny, directeur marketing chez l'entreprise Popeye Supplément, Jean-Sébastien Crevé, directeur marketing chez WeCook, ainsi que Jérémy Grandmont, agent de marketing d'influence chez Production J. En entretien d'une trentaine de minutes, les trois intervenants nous parlent de stratégies incontournables à utiliser en 2022 si on veut devenir un commerce élite. Des sujets comme le marketing d'influence, les stratégies publicitaires et l'émergence des nouvelles plateformes comme TikTok ont été abordés et pourront aider toute entreprise voulant passer à un autre niveau prochainement. Un grand merci à l'agence spécialisée en commerce électronique Novatize de m'avoir permis d'animer ces différents entretiens. Bonne écoute!
Donc, on est de retour pour un quatrième enregistrement aujourd'hui que je fais en termes de podcast. Et je pense que cette fois-ci, j'ai des invités très réchauffés parce qu'ils ont tous fait des conférences ce matin. Ils sont prêts, les discussions même avant le podcast. On sent là, que la table est mise et je vais vous les présenter un petit peu. D'un, c'est important de comprendre que l'entretien qu'on va avoir, le quatrième de la journée aujourd'hui, va tourner beaucoup autour du marketing parce que nos panélistes, à longueur de journée, vont utiliser des termes comme ROAS, coût par achat, retour sur investissement. Bref, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et le thème du panel, c'est le marketing en 2022 pour sa boutique en ligne. Par où on commence? Et notre premier panéliste, Pierrick Tourigny, directeur marketing chez Popeye, un leader québécois en ce qui a trait aux suppléments alimentaires. Et en date du 8 avril 2022, son équipe et lui sont responsables de la promotion de plus de 27 boutiques physiques au Québec et au Nouveau-Brunswick, tout en ayant du même coup une boutique en ligne en forte croissance qui était lancée en pleine pandémie. Félicitations d'ailleurs pour ça, pour cette agilité. Notre deuxième panéliste, Jean-Sébastien Crevier, directeur marketing senior chez le prêt-à-manger WeCook. En 2022, WeCook va desservir pas moins de 4 millions de plats à travers le Québec et l'Ontario. C'est donc dire que la stratégie marketing est à point, hein, définitivement. Et notre troisième invité, Jérémy Grandmont, agent d'influence chez J-Influence, une entreprise positionnée comme leader dans le marketing d'influence au Québec. Merci d'être avec moi. Donc, je répète, le sujet de l'entretien, le marketing en 2022 pour sa boutique en ligne. Par où on commence? Les gars, est-ce que vous avez envie d'en parler?
Certains, ouais. Absolument.
Oui. Je pense que vous avez des opinions tranchées sur le sujet. Donc, on va commencer avec un sujet que je pense que nos trois panélistes connaissent bien, le marketing d'influence. Et on peut voir que c'est des stratégies qu'autant Popeye que WeCook a pu tester à travers les années. Si on analyse bien vos médias sociaux, est-ce que vous avez fait dans le passé. Et Pierrick, je commencerai avec toi ici. Le marketing d'influence en 2022, comment ça s'intègre à votre stratégie globale chez Popeye?
Oui, ça s'intègre, ça prend beaucoup de place de plus en plus. Avant, on avait notre équipe de médias sociaux qui faisait des partnerships d'influenceurs ambassadeurs et on a remarqué que on avait un gap, on avait un manque de suivi peut-être. Donc on a fait on a pris des ressources humaines, donc on a maintenant quelqu'un à temps plein qui s'occupe de ça. Mmh. Donc du marketing de réseau, du marketing d'influence, quelqu'un à temps plein qui travaille là-dessus. Puis on met un bon budget. Bien sûr, c'est des essais-erreurs, mais on est vraiment content depuis environ un an là, qu'on a cette personne à temps plein.
Donc depuis un an maintenant qu'une personne à temps plein fait ça chez vous, c'est assez impressionnant.
Ouais.
Son travail spécifiquement, est-ce qu'elle a une équipe avec elle? Est-ce qu'il travaille avec un prestataire externe pour s'assurer qu'il y ait des lancements, des contenus qui soient mis de manière assez fréquente?
On marche par projet. Donc, quand ça arrive sur mon bureau, c'est un projet qui arrive sur mon bureau. Dis-moi un peu ton objectif de projet. C'est une campagne de masse. On veut te sortir un nouveau produit. XYZ raison. Donc, demande de budget. Une fois qu'on a approuvé les budgets, qu'on a approuvé le projet, on lance la campagne. Puis, c'est suivi de partnership, suivi des statistiques, on en parlait justement, suivi des statistiques, donc cette personne-là le couvre de A à Z, gestion de contenu, gestion de texte aussi, finance aussi, tu sais, s'assurer que les influenceurs sont bien payés, puis voilà.
Intéressant. Mais je pense que c'est un incontournable en 2022, le marketing d'influence, qu'on est une boutique en ligne. Jean-Sébastien, je me tourne vers toi. Je pense que moi, personnellement, je suis devenu client chez vous à un certain point à cause d'un influenceur. Donc, j'imagine que vous avez pensé à votre stratégie d'influence. Force est d'admettre qu'elle est fonctionnelle. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la place qu'elle prend dans votre stratégie marketing globale?
Oui, absolument. Premièrement, la stratégie d'influence, nous-mêmes, avant de s'appeler WeCook, on s'appelait Nutrition Fit Plus. On a changé de Nutrition Fit Plus à WeCook en janvier 2020. Mais Nutrition Fit Plus existe depuis 2013 environ. Et puis, même dans ce moment-là, Étienne et Jonathan, les deux fondateurs, dans le temps que la compagnie avait 3 employés, utilisaient ce canal-là. On utilise des influenceurs avant même que le terme influenceur existe. Puis ça a été vraiment clé dans la croissance, surtout organique, des premières années. Là, maintenant, par contre, qu'on est rendu WeCook, il y a littéralement une équipe, il y a une ressource à temps plein, il y a une gestionnaire qui s'en occupe. Puis c'est un sujet à nos marketing meetings à chaque semaine qui est approché. Donc oui, tu sais, puis il y a deux approches quand on parle de l'impact du canal influenceur. Il y a l'impact direct en vente, le direct action, puis il y a l'impact aussi de marque.
Bien sûr.
Avec qu'est-ce que ça vient, puis l'impact dans notre marketing mix. Nous, on a une approche de croissance où est-ce que on part pas avec la notion de budget, au contraire, on part avec où est-ce qu'on doit se retrouver dans le temps. Le canal influenceur principalement adresse nos buts, nos objectifs d'acquisition, puis aussi de perception de la marque. D'un point de vue acquisition, on l'utilise dans le canal, puis je dirais que c'est environ 10 % de l'impact total, mais autant en impact volume que si, présentement, on va dire, le canal influenceur est responsable de 10 % du volume, mais si je le sortais de mon mix, mon coût d'acquisition moyen possiblement qu'augmenterait de 20 à 25
%. Ben, oui.
Donc, je dirais environ 20 %
à cause de l'impact du brand.
À cause de l'impact de la symbiose du canal dans le mix total au complet.
J'en doute pas. Mais c'est une excellente réponse et ça va venir à un des points qu'on va discuter aujourd'hui. Ça a été à la mode dans les dernières années, le direct response marketing, la performance à tout prix, mais on dirait que de plus en plus, le terme brand, le terme visibilité, le terme awareness revient un petit peu plus à la mode et on en discutera un peu plus tard. Mais Jérémy, je terminerai avec toi sur ce premier sujet. Tu as la chance, au jour le jour, de travailler avec des dizaines d'influenceurs et j'imagine plusieurs entreprises du même coup. On a deux acteurs ici qui sont dans le volet alimentaire. Est-ce que le volet alimentaire, c'est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de demandes que vous voyez, vous, chez InfluenceJ, là, pour avoir accès à des influenceurs?
Oui, absolument. Puis c'est une bonne question parce que j'avais une conférence tantôt où je parlais de domaines en émergence ou en forte croissance sur les médias sociaux, notamment TikTok. Puis la cuisine en était un, cuisine donc alimentaire, bouffe,
bien sûr.
Et bien évidemment, ça a du sens parce que ben, tout le monde aime la nourriture, tout le monde mange. Puis tout le monde aussi peut s'entraîner, vouloir prendre des suppléments aussi. Puis tout ce qui est autour de la nourriture, c'est quelque chose qui touche pratiquement tous les êtres humains sur la planète. Fait que c'est pour ça que c'est un domaine, selon moi, qui est, oui, fortement en demande. Il y a beaucoup de compétition. Bon, les deux messieurs à côté de moi ici savent qu'il y a beaucoup de compétition aussi. Puis c'est dur, chacun joue du coude là-dedans. Mais bien évidemment, dans le marketing d'influence, je pense que oui, il y a beaucoup de demandes pour ça. Puis le travail est encore plus important à faire, je pense, dans la sélection d'influenceurs rendu là. Parce que puisqu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de compétition, ben faut trouver les meilleurs fits avec les meilleurs pour le brand justement pour créer la meilleure corrélation, la meilleure campagne. Puis comme on parlait tantôt aussi de sortir du mix de son mix marketing dans le sens où oui, faire du marketing d'influence, mais aussi prendre cette portée-là puis l'amener dans son placement publicitaire.
Bien sûr.
Peut décupler les pourcentages. Donc, tantôt, on parlait de, tu sais, mettons 10 % l'amener vers un 25-30. Je pense que c'est ça que tu voulais dire aussi, de sortir de juste marketing d'influence, faire une campagne d'influence, mais de prendre la notoriété d'une personne,
bien
de
sûr.
L'amener dans le visage connu vers, après ça, un placement publicitaire.
Il n'y a rien de plus fort qu'un ambassadeur qui parle
c'est
de
ça.
Votre marque, là.
Ça peut, là, ça devient du marketing d'influence et du placement publicitaire, mais c'est comme, l'un, des fois, va pas sans l'autre. En tout cas, on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est vraiment, je pense, vers là où on s'en va aussi pour être rentable dans dans ce qui est des chiffres. Là. Parce qu'après ça, oui, il y a beaucoup de brand awareness, puis il y a beaucoup au-delà des statistiques, mais pour être rentable, des fois, dans un certain investissement, quand on est déjà rendu à en faire beaucoup, comme les deux compagnies s'y présentent, ben faut penser au next step, je pense, c'est ça. Là.
Mais je pense que c'est un bon point que tu amènes. C'est un peu comme de mettre de l'huile sur le feu. Si tu as un ambassadeur qui fait du bruit pour toi, si tu es capable d'intégrer un placement média derrière ça, c'est là que ça peut devenir très fonctionnel. Deuxième point que j'aimerais discuter avec vous, messieurs, le marketing de performance. Donc, pendant plusieurs années, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on ne parlait que de ça. On peut tout tracer de A à Z, les coûts par acquisition, les retours sur investissement. Il y a eu beaucoup de changements dans la dernière année. On pourrait appeler une certaine crise publicitaire qui n'est pas prête de se terminer, surtout avec la fin des cookies tiers qui va arriver très prochainement. Il y a un très bon article qui avait été écrit par VSource qui disait que les entreprises se doivent plus que jamais de bâtir des communautés avec leur bassin de clientèle. Je pense que Philippe Kiprianou a fait une belle présentation sur ça ce matin. Miser autant sur le développement de notre brand que notre marketing de performance, donc le brand revient à la mode. Collecter le maximum d'informations sur notre clientèle afin de posséder, et pardonnez-moi l'anglicisme, du first party data. Jean-Sébastien, je commencerai avec toi ici. Est-ce que la dernière année vous a poussé à revoir votre stratégie ou plutôt votre vision du marketing de performance dans son ensemble?
Bonne question. Nous, on a intégré l'API tracking, le server side, avant même iOS 14. Ça, qu'est-ce que ça fait? Que nous, le bump, l'irritant de la perte du first dans le fond du tracking via cookie, l'a pas vraiment senti. C'est pas, mais par contre, pour parler à beaucoup de gens de l'industrie, il y en a beaucoup que ça a fait mal. Où on le sent jusqu'à un certain point, c'est qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui passent pas la donnée via le serveur. Donc, du même coup, leur performance de la capacité de cibler la bonne personne avec le bon message au bon moment diminue. Ces personnes-là doivent aller chercher un volume. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas compliqué? Ils mettent plus d'argent. Du même coup, moi, je me bats avec ces personnes-là pour aller chercher de l'impression. Donc, les coûts ont augmenté. Par contre, en termes de performance, hein, nombre d'impressions, nombre de conversions, ça n'a pas été un gros impact. Puis, compliqué.
À quoi tu attribues ça? Parce que définitivement, bon, c'est bien d'avoir installé le server-side tracking le plus rapidement possible. Moi, j'ai vu des marques, dont celle de Popeye qu'on pourra parler dans quelques minutes, qui, eux, qui avaient un brand fort, là, la tempête, ils l'ont pas senti. Est-ce que tu attribues ça à ça?
Je pense que si tu as un brand fort, tu vas chercher un volume de tes résultats, autant en termes de conversion monétaire qu'autre chose, qui vient avec ça.
Bien sûr.
Donc, si tu réduis, pour une compagnie, on va dire que 90% de son volume d'obtention de résultats est en lien avec du média, probablement que ça fait plus mal. Tandis que si c'est juste 20%, puis que le reste vient de ton brand, ben OK, c'est 20%, puis tu es 20% moins performant, ça fait beaucoup moins mal que si c'est 20% de 90% de tes résultats.
Oui, non, c'est un très bon point. J'aime beaucoup la comparaison. Ici, Jérémy, je serais curieux de t'entendre sur le sujet. Est-ce que la majeure partie des entreprises qui viennent vous voir là sont uniquement intéressées par de la performance, c'est-à-dire je veux un influenceur, je veux un retour sur investissement X, ou il y a cette communication-là qui peut se faire avec ces entreprises autour du brand equity là, qu'on pourrait aller chercher en ayant des influenceurs qui vont parler de la marque?
Je dirais, comme pour rebondir sur ce que Jean-Sébastien disait, puis aussi ce que je disais au début dans le propos, c'est il y a deux aspects souvent de notoriété ou vendre, on veut faire. Donc, les ventes, c'est la performance, c'est de rentabiliser son investissement d'argent. Mais je pense que, justement, les compagnies qui viennent à nous puis qui ont beaucoup de questions par rapport aux statistiques des influenceurs, donc la partie chiffres, là, portée, impression, s'ils sont bons pour générer des ventes avec un code promo ou tout ça, ben c'est des compagnies comme les deux qui se présentent qui sont rendues là, tu sais, à jouer tellement dur du coup dans leur industrie qu'ils ont besoin, comme chaque dollar investi doit être rentable, je veux dire, doit être rentabilisé pour pouvoir être justifié, du moins. Mais c'est ça, les personnes sont rendues là. Je dirais aussi que sinon, il y a beaucoup de compagnies qui nous approchent aussi, qui veulent beaucoup de brand awareness. Puis je pense que ça dépend juste du niveau où tu es rendu dans ton entreprise, puis aussi de ton marché dans lequel tu évolues. Fait que je dirais que oui, il y en a qui veulent du marketing de performance. Moi, ce que j'aime dire aussi à travers ça, c'est beaucoup, on en prend conscience, on est conscient des stats, on vulgarise beaucoup là-dessus aussi, puis on fait les prix en conséquence. Mais ce que je rajoute souvent aussi, puis ce que j'essaie d'expliquer aux clients la plupart du temps, puis je pense que les deux messieurs aussi ont bien compris aussi, c'est qui a une valeur aussi qui est pas quantifiable d'avoir un influenceur. Il y a beaucoup de qualitatifs dans ça. Ce qu'on appelle la notoriété, ce qu'on appelle aussi juste comme un ambassadeur, comme tu disais au départ. Puis ça, c'est quelque chose qui, malheureusement ou heureusement, ou peu importe, là, je vais pas dire malheureusement pour ça, mais c'est pas négatif, c'est ça se calcule pas. Mais ça a un prix quand même, puis il faut...
C'est ce qui fait qu'une entreprise peut perdurer à travers les années.
C'est ce qui fait qu'une entreprise peut être pérenne dans le futur, puis ce qui fait aussi qu'il faut choisir d'autant plus l'influenceur de la bonne manière, faire ses devoirs auparavant, puis tu sais, quitte à demander des statistiques d'influenceurs, faire des analyses à l'interne, puis dire comme, OK, on a sélectionné un bassin de 10, puis on en choisit deux parce que ils ont fait la cote, on va dire, en bon français, ils ont passé tous nos critères, mais c'est du temps investi, mais honnêtement, si on prend ce temps-là rendu au niveau, je pense, de ces entreprises-là, ou au niveau d'autres entreprises dans un domaine similaire ou compétitif dans d'autres domaines, ben je pense qu'on va s'en remercier plus tard parce que c'est ça qui est à long terme le meilleur. Faut voir aussi long terme, je pense, dans ce domaine-là.
Tu as mentionné un point que je trouve intéressant, que j'aimerais faire un peu de pouce là-dessus. Tu as mentionné choisir ces influenceurs. Je parlerai aux deux messieurs ici qui vous avez ultimement, que ce soit vous ou quelqu'un de votre équipe, à choisir ces influenceurs-là. Comment cette sélection-là se fait? Est-ce qu'on vous accompagne là-dedans? Est-ce qu'il y a des valeurs, des traits précis? Parce que au final, on s'entend, un influenceur va faire un contenu pour vous, mais le reste de la semaine, il va faire des contenus pour lui. Ouais. Donc, on veut s'assurer que ces contenus pour lui soient, j'imagine, en adéquation avec ce que le brand peut véhiculer. Pierre-Éric, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
Ben, pour continuer avec ce que les gars disaient aussi, c'est nous, on choisit notre influenceur. Il y a des gens qui vont générer des achats, qui vont calculer leur retour sur investissement avec des achats directs. Exemple, peut-être WeCook. C'est bien. Par contre, nous, on ne peut pas faire ça en étant pour deux raisons. Premièrement, en étant une entreprise de niche. L'objectif à la base, quand on passe à Popeye Supplément, quand on le présente à des gens qui ne le connaissent pas, donc c'est démocratiser la supplémentation.
Ouais.
C'est notre objectif premier quand on fait un marketing d'influence. Notre deuxième truc, pourquoi on ne calcule pas notre retour sur investissement avec des achats, c'est des achats de produits de santé. Donc, c'est un petit peu difficile pour nous d'arriver avec un influenceur puis dire, écoute, voici un code promo, pousse nos produits pour la vente. C'est un petit peu difficile quand c'est peut-être on a 2000 SKU en magasin, on aimerait en avoir 8000 prochainement. C'est un petit peu difficile de dire, écoute Antoine, t'as une belle notoriété, écoute, t'as une belle plateforme, vends-moi des produits. Écoute, c'est tellement difficile, nos plans de formation sont longs, donc on laisse ça à nos
conseillers. C'est un sujet qui est sensible.
Exactement, on laisse ça à nos conseillers plus, puis c'est vraiment de lancer notre logo, c'est vraiment la notoriété de marque qu'on recherche là-dessus, parce qu'on peut s'asseoir jour et nuit puis faire des analyses de résultats, de dire, hey, on a généré tant de ventes. Au final, honnêtement, moi, les ventes par mes influenceurs, c'est vraiment pas ce que j'aime.
Parce que vous avez aussi des boutiques en magasin.
Exactement.
Donc, on veut amener du...
On va amener du monde en magasin, mais l'objectif, c'est vraiment de démocratiser la supplémentation. Donc, on va pas aller vers un influenceur qui est typiquement dans le core business de ce qu'on recherche. On l'a déjà acquis, ce client-là. Tu sais, on est une des plus grosses marques retailers de supplémentation au Canada. Donc, honnêtement, pour nous, c'est vraiment d'aller chercher des nouvelles niches puis d'aller chercher des
nouvelles. C'est de la répétition.
Exactement.
C'est de la répétition qu'on va amener à la fin
Exactement.
De la journée. Je continuerai peut-être. J'ai
vraiment pas répondu à ta question, mais c'était.
Ouais, le but, c'est d'avoir.
Le ballon bon là-dessus, ouais. Dans le fond, je pense que c'est ça la grosse différence. Ben, une des différences entre vous deux dans l'alimentation, c'est que vous êtes présent en magasin. Puis le fait de faire la publicité avec, comme tu dis, du brand awareness puis de montrer ton logo, ça fait que si quelqu'un arrive en magasin pour acheter, qu'il veut s'entraîner, il arrive, il est prêt à. Dans le processus de consommation, il est prêt à dire « bon, je suis prêt à acheter ça ». Mais le fait d'avoir vu votre logo, souvent sur les médias sociaux, ou avoir vu votre brand, il va avoir tendance dans son esprit à dire « je connais déjà ça ».
Exactement.
Puis je vais acheter ça. Au lieu de penser à d'autres produits du marché qui est en forte compétition, comme on disait, le fait d'avoir vu le logo Popeye ou les produits de vos segments de produits va dire « j'ai déjà confiance en ça en magasin ». Ce que WeCook peut-être est différent, c'est qu'ils vendent en ligne, puis c'est beaucoup c'est du volume en ligne, mais c'est ça. En tout cas,
comment ça se déroule dans ce cas-là, le choix d'influenceur, Jean-Sébastien, avec WeCook?
Nous, on approche différemment. On a un gros volume d'influenceurs. Puis, après ça, il y a aussi une notion d'atteinte d'objectifs. Les objectifs ne seront pas tous quantitatifs en termes d'acquisition de clients. Il y a aussi une notion, on va dire, de marque. Mais le côté marque, ça ne veut pas dire qu'on veut faire du branding, qu'il n'y a pas de notion quantitative, qu'il n'y a pas d'objectif. Donc, d'un point de vue volume, acquisition, ça, c'est simple. Code promo, on focus sur... Ben, oh, puis encore là, souvent au Québec va être plus facile qu'en dehors du Québec parce qu'en grande majorité, les influenceurs du Québec ont un reach québécois. Tandis qu'un influenceur hors Québec, on va dire un influenceur d'Ontario, ça ne veut pas dire que si, je sais pas, 100 000 followers, ça ne veut pas dire que les 100 000 sont en Ontario. Ça, c'est un challenge. Donc, il y a des techniques pour aller plus deep là-dedans. Mais tout ça pour dire que nous, la sélection, oui, on a nos top influenceurs qui génèrent énormément de retours, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas aller avec l'autre qui est moins, on va dire, profitable. Ça reste qu'il rentre quand même dans notre créneau d'acceptabilité. Puis, nous aussi, on est dans une approche où est-ce qu'on veut établir des relations. On a littéralement des influenceurs qui ont le numéro de cellulaire des fondateurs.
Oh oui.
Puis, quand ils déménagent, puis ils ont besoin d'un camion, on va leur prêter un camion.
On leur donnait de la bouffe.
Ah non, ça va plus loin que la nourriture, je veux dire.
Des amitiés qui se sont créées.
Sans rentrer, sans nommer personne, on a un influenceur qui a développé sa propre plateforme puis frappait un mur sur un point de vue technique de tracking. J'ai passé une heure au téléphone avec lui pour troubleshooter. C'est le type de relation qu'on a avec nos top influenceurs puis ça me faisait plaisir de le faire.
C'est important de bâtir des bonnes relations avec des influenceurs là, parce que au final, tu veux qu'ultimement, il y ait eux-mêmes aient une envie de promouvoir ta marque plus que de simplement recevoir le chèque. Là.
En fait, en termes de but global, de Awesome State, moi, je veux que l'influenceur aime WeCook d'une certaine manière, que s'il se lève un matin et dit « il y a une idée, hey, je voudrais lancer tel projet », qu'il nous appelle.
Ouais.
C'est comme hey, « je sais qu'avec WeCook, ils vont trouver une façon pour que ça fonctionne ».
Intéressant. Je voudrais revenir à toi, Pierrick. Donc, on a parlé un petit peu de marketing de performance, stratégie marketing globale. Vous avez reçu chez Popeye en 2021 la distinction du meilleur service en magasin. Félicitations d'ailleurs.
Merci.
Tu parlais d'ailleurs ce matin de stratégie multicanale. Je me trompe ou depuis le jour 1, là, donc pas juste dans la dernière année, mais vous en avez toujours fait la promotion. Vous avez toujours fait beaucoup de branding, autant de marketing de performance. Ça a toujours fait partie de votre vision de se dire « Oui, on veut calculer notre retour sur investissement, mais le brand, vous faites encore, je pense, des campagnes à la télé que j'ai été capable de voir. » Ça fait partie intégrante de votre stratégie depuis le jour 1, ça?
Oui, depuis le jour 1. Ben, premièrement, juste le logo.
Oui,
un logo
le nom.
Relativement fort. Donc, on jouait sur le logo. On joue encore sur le fait que le logo est facilement reconnaissable. Aussi, on a des articles promotionnels que les gens aiment, les gens adorent, les gens consomment. Donc, oui, on joue là-dessus. Puis, nos ambassadeurs, c'est nos clients à la base.
Bien
c'est
sûr.
Nos clients, donc, on leur donne des articles promotionnels à la tonne et ils sont habitués de repartir avec des cadeaux. Puis, oui, effectivement, depuis le jour 1, on fait ce type de branding awareness-là. Puis, oui, comme tu dis, on fait du mass media, on a des bandes, on a fait à une certaine époque des bandes pour la Ligue nationale de hockey, on a fait la télé, relativement dans tous les mass médias. Puis oui, on en fait encore, exactement.
Ça aide parce que l'entreprise grandit année après année et reçoit des belles distinctions, comme je l'ai mentionné. Mais si on parle souvent des nouvelles tendances, on utilise même le terme en anglais, le « shiny objects », la nouvelle tendance du moment qui marche et qu'on doit absolument faire, j'aimerais parler d'un sujet différent. J'aimerais savoir qu'est-ce qui ne change pas et qui continue à bien fonctionner en marketing. Jean-Sébastien, je commencerai avec toi.
On tombe vraiment dans mon créneau. Moi, avant même, je me qualifie pas comme un marketer, je me qualifie comme quelqu'un de données. Dans le doute, je reviens vers la donnée. Puis je pense que ça a toujours été le cas, ça a été vu différemment, mais de plus en plus, ça va être la même chose, ça va être de plus en plus important. Pars avec ce que tu sais, pars avec ta donnée bâtie là-dessus.
Ouais.
Les assumptions vont pas t'amener super loin. Généralement, le passé garant du futur.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est, sur moi, c'est la base. Puis, je pense pas que ça va changer.
Puis qu'est-ce qui a été bon dans le passé pour WeCook? Parce que comme ça, on va savoir c'est quoi votre stratégie pour 2023.
Qu'est-ce qui a été bon? Ben, j'en parlais dans ma conférence. Bâtir sur le structurant. Pas faire du jetable. Nous, là, tous nos nouveaux canaux, toutes nos nouvelles initiatives, on part avec une hypothèse. OK, je pense que ça va faire ça. Voici comment je peux le prouver. Puis, OK, on se trompe. Des fois, c'est pas, tu sais, des fois, on n'atteint pas. Mais, en même temps, tu sais, l'expression souvent est, tu sais, à tort et à travers, mais soit qu'on réussit ou qu'on apprend, quand tu bâtis ton initiative, mets-toi dans une situation que ça va être comme ça. Donc, au moins que tu saches qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Comme ça, tu peux... Si, selon moi, c'est aussi mauvais de faire une initiative qui ne fonctionne pas que de frapper un coup de circuit puis pas être au courant.
Intéressant. Donc, en gros, quand tu dis quelque chose qui va toujours être du structurant, est-ce que je peux comprendre, et corrige-moi si je me trompe ici, que quand vous bâtissez une initiative marketing, vous voulez pas qu'elle fonctionne que le temps d'un week-end. On veut être certain qu'elle soit capable de passer à travers le temps. Donc, encore une fois, le fameux terme, le « evergreen » en marketing. Est-ce que c'est de cette manière-là que vous bâtissez et que vous itérez à longueur de journée?
100%. Puis, je mets au défi les gens d'aller... un exemple, on est excessivement présent sur Meta. Je mets au défi les gens d'aller voir notre ad library des deux dernières années. Puis, on voit, à chaque fois, c'est un level up basé sur les connaissances. On fait une campagne... On analyse qu'est-ce qui a fonctionné, on apprend, puis la prochaine est meilleure.
Bien sûr.
C'est un effet composé.
Ben oui.
Ça fait une grosse différence.
Intéressant. J'adore ce que j'entends. Jérémy, qu'est-ce qui va rester et qui va perdurer à travers le temps, 2022-2023?
Jean-Sébastien, peut-être qu'il va, il m'aimera pas là-dessus, mais en même temps, je pense que c'est complémentaire ce que je vais te dire à ce qu'il disait. Oui, le structurant, oui, les chiffres, oui, c'est sûr que ça va toujours être. Il faut partir de ce qu'on connaît souvent pour pouvoir bâtir pour le futur. Moi, ce que je vais te dire qui changera pas, c'est que c'est les humains derrière la plateforme. C'est, puis honnêtement, j'en ai parlé dans ma conférence aussi par rapport à TikTok, qui est vraiment axé sur l'humain aussi, cette plateforme-là. Moi, je pense que ce qui changera pas dans le futur, puis ce qui est déjà présent, puis ce qui va rester tout le temps. Puis même avant les médias sociaux, les publicités qu'on voyait à la radio, à la télévision, les placements de produits dans les films, le social proof d'avoir quelqu'un qui parle d'un produit à la radio, ou peu importe, les remotes dans le temps qu'on avait, là, pour ceux qui connaissent la radio, de se déplacer sur place, parler « Bonjour, bienvenue au Club Piscine de Trévis, à Trois-Rivières, une vente spéciale ce week-end », tu sais, ce côté humain-là, ouais. Malgré qu'on est sur les médias sociaux, malgré qu'il y a une pandémie depuis 2 ans, malgré qu'on est tous distanciés, là, on a la chance d'être en personne, c'est merveilleux, mais le côté humain... même quand on parle à une entreprise, il y a un humain qui nous répond. Quand on interagit aussi, je l'ai souvent dit dans ma conférence, interagissez dans les médias sociaux. Je pense que c'est ça qui va pas changer. Puis c'est ça qui différencie, je pense, certaines compagnies qui réussissent encore plus des campagnes d'influence ou de stratégie média que d'autres. C'est ce potentiel gestion de communauté-là. Mm. J'ai plusieurs exemples en tête là, pour pas les nommer. Mettons Maxi, je trouve que c'est eux qui viennent en tête souvent.
Ils ont fait des bonnes campagnes récemment, Maxi?
Ben, on les a vus à la
télé. Ah, avec Martin Mapouille.
Oh, ben, c'est ça, tu sais, je me suis dit, c'est un bon référent qui est récent. C'est pour ça que je dis ça, mais dans l'alimentaire, encore une fois, mais bref, sur les médias sociaux, ouais. Leur gestionnaire de communauté doit avoir une équipe béton, mais je veux dire, répondre aux commentaires, interagir avec les gens.
Bien sûr.
Ça crée, on dirait, je sais pas, c'est comme, ça s'explique pas, on dirait, je sais pas, c'est vraiment...
Quel Sébastien?
Si je peux me permettre, qu'est-ce que c'est très drôle, là, c'est que Jérémy puis moi, on s'était jamais parlé. Ça a donné qu'on s'est parlé au téléphone cette semaine.
Avant hier.
Rien à voir avec la conférence. Ça a donné que nos champs professionnels se sont croisés. Puis on travaille sur un projet ensemble où est-ce que on veut, on va utiliser des influenceurs, mais pas nécessairement avec leur reach organique, mais on veut faire un test, puis encore là, avec l'approche que je mentionnais de, on s'attend à ce que ça fonctionne, mais au moins, on le fait d'une façon où est-ce que soit que ça va fonctionner ou qu'on va apprendre, qu'on veut utiliser des influenceurs sur nos campagnes médias payantes en A/B test avec une pièce créative sans influenceur versus une pièce créative avec l'influenceur ou une pièce créative postée par l'influenceur où le WeCook roule le média. Puis, on fait un test pour voir lequel va nous donner un meilleur retour. Puis, en termes de performance, je parle pas juste de conversion, combien qu'on va générer plus de clients, mais des KPI d'engagement, lesquels génèrent le meilleur engagement, le taux de clic le plus bas. Fait que c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille, ou est-ce que, oui, c'est pas juste une notion de performance directe, mais aussi sortir, tu sais, out of the box, comment est-ce qu'on peut utiliser les influenceurs comme force multiplier dans même nos campagnes médias payantes.
Bien sûr. Bah, définitivement, ça fait du sens. Un influenceur qui parle, une marque qui parle pour elle-même, ça risque de fonctionner si la marque est forte. Quand quelqu'un d'autre parle de la marque, ça risque d'être encore plus fort. Et qu'on est capable de mixer une bonne stratégie média à tout ça habituellement, ça donne un cocktail qui est explosif. Pierrick, ça fait 8 ans bientôt que tu es chez Popeye, ouais. Peut-être même un petit peu plus, ouais. Là. Donc, tu as traversé certaines époques de marketing. Qu'est-ce qui ne changera pas pour Popeye et dans ce que tu perçois pour les prochaines années au niveau du marketing?
Écoute, on a dit le mot « out of the box ». C'est le meilleur mot qu'il n'y a pas pour le futur marketing. Écoute, les gens sont pas dupes. Les gens, quand tu les contactes via un live chat, via les magasins, via Instagram ou Messenger, c'est facile de répondre aux clients. C'est facile de mettre quelqu'un en place puis dire, hey, écoutez, merci, nanana. Tu sais, c'est facile de mettre un bon système de service à la clientèle, mais personnaliser son système pour de vrai, parler à la personne pour de vrai. S'il y a une demi-heure de conversation de live chat, écoute, mon team va passer une demi-heure, une heure à jaser avec les clients et c'est ce qu'on veut. C'est vraiment aller discuter avec le client puis amener des idées qui sont out of the box, justement. Soit qu'on apprend, soit qu'on gagne, soit qu'on apprend. Ben, écoute, nous...
Mais votre service client, c'est votre meilleur marketing. Vous l'avez gagné numéro un dans la dernière année. Exact. Donc, le service client, ça doit être ça, là, un petit peu la clé de voûte pour papa.
Ben, oui, puis je pense pour toutes les entreprises... souvent, on dirait que le service à la clientèle, c'est quelque chose qu'on met, bon, ben, ça va être un nouveau qu'on va mettre là, puis qu'il va répondre aux questions. Ben, nous, on a nos deux personnes les plus importantes. C'est notre personne au live chat, notre spécialiste médias sociaux. C'est les gens qui répondent. C'est la seule personne qui va communiquer hors des magasins à nos clients. Prends-en soin de cette personne-là. Tu sais, réponds des choses qui sont drôles. Va voir le client. Écoute, jase avec. Puis c'est ce qui est important pour nous. Puis les stratégies marketing, ben encore une fois, tu sais, on parlait de Maxi. Ben veux pas, Maxi, c'est un nos...
Des gens que vous regardez un peu,
ouais, qu'on
que
regarde,
vous inspirez.
C'est ça, dans nos meetings, dans nos meetings de conception, nos meetings créatifs, ben écoute, on veut voir dans la pub de Maxi. Ben, puis je nommerai une autre compagnie, c'est un ami à moi, Anthony Vandramme, qui a Poche et Fils.
Oui, ça
passe. Écoute, je pense que je suis peut-être biaisé parce que c'est un ami à moi, mais d'après moi, c'est le meilleur type de marketing, c'est les médias sociaux.
Oui.
Le gars est target dessus, puis c'est out of the box. Puis ben nous, écoute, on s'en inspire, puis ça va. On a vu énormément de différences dans notre marketing, dans notre approche client, ben la façon que les clients nous approchent aussi. Puis c'est ce que je vois un peu pour...
Mais c'est fascinant la conversation qu'on a aujourd'hui parce qu'on a le volet avec Jean-Sébastien très analytique, très chiffre, volet avec Pierrick, un petit peu plus brand, Jérémy est un peu entre les deux, tout ça. C'est, mais ça donne une conversation qui est très croustillante, messieurs. Et je terminerai le dernier point que j'aimerais savoir. Vous avez tous les trois fait des conférences. Ce matin, vous allez peut-être continuer à aller voir d'autres conférences en après-midi. Qu'est-ce que vous venez chercher à la journée e-commerce? Est-ce qu'une information à la fin de la journée que vous pourriez prendre et vous pourriez vous dire, ouais, là, c'est exactement ça que je recherchais aujourd'hui. Maintenant, je sais comment faire le bon prochain move pour mon entreprise. Jérémy, je commencerai avec toi.
Moi, c'est pas tant, je dirais, je suis un peu comme tu dis entre les deux, je suis pas tant une information comme telle, plus de réseauter, oui, mais de confirmer certaines choses ou de venir ajouter des trucs dans mon petit baluchon que je traîne. C'est plus parce que j'ai une expertise qui est très marketing d'influence, c'est médias sociaux, oui, analytique, mais tantôt, quand Jean-Sébastien parlait de trucs plus structurants, plus d'analytique, les chiffres, tout ça, ben c'est un peu ça que j'aimerais ajouter à mon expertise. Pas que je me prétends... Je connais pas tant ça, je connais les termes. On dirait que je pourrais avoir une discussion, mais pas être l'expert en parler, certainement pas.
Bien
mais
sûr.
C'est quelque chose que je trouve qui est vraiment complémentaire à ce que je fais déjà dans mon travail. Puis quand je parle de médias sociaux, de côté créatif, puis oui, la créativité comme outside of the box, c'est très important. Moi, je pense que j'ai plus de force là-dedans, dans ce côté-là. Mais la créativité sans chiffres, sans analyse derrière, on perd des opportunités ou du moins, c'est sûr qu'on ne vient pas optimiser tout ça. Fait que moi, c'est plus ça, je dirais. Je viens chercher plus des concepts que je veux amalgamer. Après, tu sais, à rencontre d'équipe avec mon équipe après ça à l'agence, ben tu sais, donc qu'on soit plus au courant de ces affaires-là puis qu'on sache deep dive là-dedans plus que juste les termes et tout.
Intéressant. Pierrick?
Ben, qu'est-ce qu'on vient chercher? Tu sais, on te pose la question, c'est qu'est-ce qui s'en vient en 2022 ou en 2023, 2024, 2025? On n'a peut-être pas la réponse. Allons la chercher ici avec des gens qui s'y connaissent, puis allons prendre des idées de tout le monde. Ramenons nos notes au bureau, puis brainstormons. Tu sais, je pense que les gens, je pense pas ça, mais souvent, peut-être une erreur, c'est qu'on est peut-être un peu fermé dans notre business, puis on travaille tellement fort sur nos projets, sur qu'est-ce qui s'en vient pour nous, qu'on oublie peut-être d'aller à l'extérieur puis voir qu'est-ce que les autres font de bien parce que les autres brands, ben ils font des choses de bien. Fait qu'on peut apprendre de tout le monde.
Puis c'est ça que ça sert, journée, ces journées-là.
C'est exactement ça.
Exact. Jean-Sébastien?
Moi, premièrement, je m'attendais pas, puis je m'attends pas. Je pense pas que ça va être suis pas supposé venir à une conférence comme ça puis sortir d'ici, « Hey, wow, je vais mettre la hache dans ma stratégie, dans qu'est-ce que je fais, je repars à zéro. » Si c'est ça, il y a quelque chose qui marchait pas. Par contre, il y a deux approches. Premièrement, une journée comme ici, comme aujourd'hui, surtout en présentiel, ça permet de rencontrer beaucoup de gens. Ça permet de voir des visions différentes. Mais en même temps, surtout le fait d'être en présentiel, ça fait que nous, on est venus...
Ça change
là,
tout, là.
Ouais. Moi, je suis ici. Étienne et Joe, les deux fondateurs, sont ici. On a déconnecté de notre day-to-day de qu'est-ce qu'on fait WeCook. Pour aujourd'hui, on focus comment est-ce qu'on maximise le takeaway de la conférence. Soit en parlant des gens, soit en allant chercher des nouvelles idées, mais aujourd'hui, le but, puis tu sais, on s'en venait, on en discutait comment est-ce qu'on maximise notre temps, parce que peu importe que tu payes pour être ici ou non, c'est, ça reste que c'est, on a chacun une journée qu'on n'est pas au bureau. J'ai pas les mains dans mes campagnes. Ouais. Mais comment est-ce qu'on rend ça avec un ROS positif en termes de temps et tout? Puis le but, c'était d'aller chercher des nouvelles idées, faire des contacts. Comment est-ce qu'après ça, potentiellement, on peut les appliquer?
Ben, je pense que vous l'avez bien dit. Hein? Il y a quelque chose qui s'est passé en mars 2020. Je me rappelle plus trop du nom, mais en tout cas, ça a changé un peu le monde. Puis on n'a pas pu se voir pendant 2 ans de temps. Donc, d'aller serrer des mains aujourd'hui, là, ça change beaucoup de choses. Puis c'est beaucoup plus plaisant que de faire ça via Zoom. Pierre-Éric Tourigny, Jean-Sébastien Crevier, Jérémy Grandmont, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui pour ce 4e podcast qu'on a eu la chance de discuter. Beaucoup d'apprentissage. Je vous remercie de votre temps. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de conférence.
Merci Antoine.
Merci à toi.